Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Des centaines d'églises, couvents, abbayes et monastères ouvrent leurs portes pour les journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end. En France, on cherche à valoriser ces biens hérités de l'histoire, mais parfois sans succès. Des églises disparaissent ainsi, faute de fonds. Nous en parlons dès le début de cette émission. Activité du pape, messe à Sainte-Marthe, audience du nouvel ambassadeur de Bulgarie près le Saint-Siège et cette lettre envoyée en Argentine où le père José Gabriel Brochero, proche des pauvres, prêtre à cheval et béatifié ce samedi. Enfin, avant le commentaire de l'évangile du père Montavide, sœur Catherine Aubin nous présente « Un monde sans fin » FIM, l'ouvrage d'Hervé Lejeune. Pour lui, pas besoin de produire plus pour nourrir l'ensemble de la planète. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en langue française de Radio Vatican. L'abbatiale Saint-Cyriaque en Alsace, la basilique Notre-Dame du Port en Auvergne ou encore l'abbaye de Corbigny en Bourgogne. Des centaines de couvents, monastères, églises classées monuments historiques ou encore sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO vous ouvrent leurs portes gratuitement pour les journées européennes du patrimoine qui se tiennent en France ce week-end. À Paris, une centaine d'églises vous accueillent, tout comme les missions étrangères ou dans le 7e arrondissement, la maison de la Conférence des évêques de France, 58 avenue de Breteuil. La mairie de Paris propose elle également une série de visites guidées thématiques sur les vitraux, les églises de village du Second Empire, les chaires à prêcher. Il y a donc ces églises qu'on s'empresse de visiter et puis d'autres qu'on est parfois amené à détruire. En France, 5 églises ont ainsi été détruites depuis le début de l'année. Ces décisions ont été prises par les municipalités. L'entretien des édifices étant jugé trop coûteux, selon des évaluations toujours inachevées, il y aurait aujourd'hui près de 50 000 édifices religieux en France, principalement catholiques. Depuis 1905, la plupart d'entre eux sont détenus par l'État via les communes ou les collectivités territoriales. Pour l'instant, le phénomène de ces destructions est assez marginal, mais des églises désertées et dégradées seront de plus en plus souvent détruites, vendues ou réutilisées. Pourquoi ces édifices religieux patrimoine de la France disparaissent-ils ? L'éclairage tout de suite d'Audrey Radondi.
Depuis le début de l'année, Maxime Cumenel de l'Observatoire du patrimoine religieux a reçu au moins un avis de démolition par mois. Selon lui, deux facteurs peuvent expliquer ce phénomène.
On a énormément d'églises en France qui ont été reconstruites ou construites entre les années 1850 et 1905 et qui demandent des besoins de travaux considérables. Et il y a un deuxième facteur plus psychologique. Certains élus sont démissionnaires, voire menteurs, c'est-à-dire qu'ils adoptent une stratégie qui consiste à promettre mille et une choses pendant leur campagne électorale, et puis au moment de payer la facture, ils vous disent « Ah, mais il n'y a plus d'argent pour l'église ». Les deux couplés font que beaucoup d'églises se trouvent à la fois avec des besoins de restauration importants et avec des élus responsables qui préfèrent les détruire plutôt que dépenser les quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros nécessaires.
Pour faire barrage au projet, plusieurs habitants se sont rassemblés en association, comme à Jété dans le Maine-et-Loire. Depuis 2007, les opposants et la commune se livrent une bataille judiciaire. Jean-Joseph, de l'association Mémoire vivante du patrimoine gestois.
Le tribunal administratif de Nantes avait annulé le permis de démolir et la commune a fait appel devant le Conseil d'État. Ça n'a même pas franchi la première marche. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de permis de démolir. Donc, ils ont décidé au mois de mai de passer outre les décisions de justice et de démolir l'église. Alors nous, on a attaqué au tribunal administratif en demandant la suspension des travaux, et le tribunal n'a pas suivi. Donc on a déposé un recours devant le Conseil d'État, qui va être peut-être étudié qu'en fin d'année. D'ici là, l'église sera démolie, ils vont terminer cette semaine ou la semaine prochaine la démolition.
L'association a toujours demandé l'aide de l'État, sans succès. Jean-Joseph.
Le préfet précédent était pour sauvegarder l'église. Depuis, on a changé de préfet, et le préfet actuel a décidé qu'il fallait la rayer de la carte. Nous avons été en relation avec Arc-sur-Tille, à Sainte-Gemme-d'Andigné, dans le Maine-et-Loire aussi. Mais l'église de Sainte-Gemme-d'Andigné a été classée, alors qu'on ne comprend pas pourquoi celle de GT ne l'a pas été.
L'État assure qu'il ne peut pas classer toutes les églises, et certains membres de la classe politique expriment même leurs doutes sur une action des autorités. Maxime Cumenel.
La plupart des hommes et des femmes politiques sont encore très réticents à l'idée de s'intéresser à un patrimoine religieux simplement parce qu'ils ont peur qu'on pense qu'ils vont soutenir l'Église, etc. C'est absolument faux et il faut vraiment leur passer un message qui est sortez de ces a priori sur la pratique religieuse, intéressez-vous au monument pour ce qu'il incarne, pour son symbole identitaire ou urbain, et dépassez la simple pensée religieuse.
D'autres ont bien conscience que le clocher est un des éléments essentiels du village français, comme l'explique Alain Gimberto, fondateur du site clocherenperil.fr.
C'est clair que tous les défenseurs que je rencontre ont un mot qui est toujours le même, le village a perdu son âme. Ça c'est un mot très fort, et il y en a même un qui m'a dit, on a fermé l'église, on est en prison dehors. Vous voyez, c'est des mots forts que les gens utilisent pour décrire la disparition de l'église ou le projet de destruction.
Mais avec de la volonté et des idées, des édifices pourraient être sauvés, Maxime Cumenel.
Vu le contexte économique actuel, il faudra évidemment trouver des sources de financement alternatives, par exemple sous forme de mécénat ou via la Fondation du patrimoine, etc. Il faudra évidemment penser à entretenir mieux, parce que quand on entretient mieux, on retarde les gros travaux. Et puis la deuxième réponse qui est politique, c'est évidemment de se battre sur le terrain contre tous les maires qui veulent détruire des églises pour que collectivement, nous Français, passions le message suivant. Notre patrimoine, nous souhaitons le garder et nous souhaitons qu'il soit maintenu en bon état.
D'ici 2030, l'église prévoit de vendre 10% de son patrimoine cultuel, ce qui provoquerait la destruction ou la réutilisation de milliers d'édifices religieux.
Et puis toujours concernant la France, le journal du Saint-Siège, l'Osservatore Romano, évoque les critiques suscitées par la charte de la laïcité qui doit être affichée en France dans toutes les écoles publiques. Le quotidien du Vatican rappelle que pour certains, la religion fait partie de la société et le fait de ne pas approfondir ce sujet à l'école peut nuire à la qualité de l'éducation. Le journal cite également les arguments de Dalil Boubaker sur le risque de stigmatisation de la communauté musulmane en France. Selon le président du Conseil français du culte musulman, 90% des personnes de confession musulmane auront l'impression d'être pris pour cible par cette charte. Au Vatican, messe quotidienne dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe où loge le pape. Dans son homélie, François a expliqué ce samedi que le mystère de la croix est le plus grand mystère pour l'homme et peut seulement être approché à travers la prière et les larmes. Le pape a développé toute une réflexion autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au paradis et l'arbre de la croix. Thomas Chabol.
Le premier arbre a fait beaucoup de mal et le deuxième nous a apporté le salut, a souligné le souverain pontife. Et d'ajouter, Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver. Ainsi, l'arbre de la croix nous sauve tous des conséquences de l'autre arbre qui fait naître l'autosuffisance, l'orgueil de vouloir tout connaître selon nos critères et selon cette présomption d'être les seuls juges de ce monde. Dans la croix, il y a aussi l'histoire de Dieu, a poursuivi le pape, parce que nous pouvons dire que Dieu a une histoire. De fait, il a voulu faire sienne notre histoire et marcher à nos côtés, en se faisant homme, en assumant sa condition de serviteur et se faisant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Dieu l'a fait par amour, a lancé François dans son homélie. Sans l'aide des pleurs du cœur, a souligné le pape, nous ne pourrons jamais comprendre ce mystère. Ce sont les pleurs du repenti, les pleurs du frère et de la sœur qui voient toutes les misères humaines et qui les contemplent en Jésus, à genoux et jamais seul.
Ce samedi, le pape François a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Bulgarie près le Saint-Siège. Il a également reçu le président du Conseil pontifical pour la famille, Mgr Paglia. Enfin, François a envoyé une lettre à Mgr José María Arancedo, l'archevêque de Santa Fe, président de la conférence épiscopale d'Argentine, à l'occasion de la béatification du père José Gabriel Brochero qui traversa la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle à cheval. Un prêtre empreint de spiritualité ignatienne, complètement voué aux pauvres. C'est le cardinal Angelo Amato, le président de la Congrégation pour la cause des saints, qui préside la messe de béatification comme envoyé du pape en Argentine. La communauté catholique du Kazakhstan se réjouit, elle est encouragée par la visite du préfet de la Congrégation pour les Églises orientales ce dimanche dans ce pays d'Asie centrale à très forte majorité musulmane. Le cardinal Leonardo Sandri va consacrer la nouvelle église gréco-catholique Saint-Joseph à Astana, le signe manifeste d'une église locale qui s'agrandit. L'envoyé du pape remettra à cette occasion un don fait par François, un calice et une relique destinée à l'autel de Saint-Josaphat, évêque et martyr. Lors de ce déplacement, le cardinal Sandri doit également rencontrer le Premier ministre du Kazakhstan, son chef des affaires étrangères, les responsables des bureaux des affaires religieuses, pour évoquer entre autres avec eux la question de la liberté religieuse. Il s'entretiendra enfin avec des responsables musulmans. Comme chaque samedi, nous retrouvons Sœur Catherine Aubin et sa chronique « Le livre pour Dieu ». L'ouvrage de cette semaine étant une mise en garde qu'une proposition, son titre « Un monde sans fin », FAIM, son auteur Hervé Lejeune, enseignant en politique agricole, conseiller pour l'agriculture du président de la République française de 2000 à 2006, puis jusqu'en 2011, le sous-directeur général à la FAO, ici à Rome. Hervé Lejeune nous explique que produire plus de nourriture n'est pas la seule voie pour être sûr de pouvoir nourrir 9 milliards de personnes en 2050. En effet, pour lui, il faut dépasser les débats idéologiques qui freinent ou empêchent les progrès, car nous pourrons nourrir le monde en 2050 si nous le voulons bien.
Hervé Lejeune, le titre de votre livre « Un monde sans fin ». Et le sous-titre « Nous pourrons nourrir le monde en 2050 ». Votre livre, c'est une dénonciation, une constatation, une prise de position ou bien une ouverture vers des propositions ?
Ce livre, c'est une alerte, me semble-t-il, parce que la situation aujourd'hui est grave en matière de sécurité alimentaire mondiale. Elle pourrait empirer si nous apportons des solutions qui ne sont pas vraiment adaptées, mais l'objet du livre, c'est de dire que, au fond, avec les perspectives démographiques que nous avons à l'horizon 2050, il est possible de relever ce défi, et donc c'est un livre fondamentalement optimiste. En fait, j'ai voulu faire un livre qui, peut-être à la différence de d'autres, se veut beaucoup plus un livre de synthèse par rapport à des approches très partielles ou par domaine. Et alors qu'évidemment, la question de la sécurité alimentaire, bon, c'est une question de production agricole, mais c'est aussi fondamentalement, et au moins aussi fondamentalement, un problème une question liée à la pauvreté et à la manière dont, sur un plan politique au sens large du terme, on veut y répondre, soit avec une petite approche un peu étriquée sur les émotions, et puis d'un autre côté, l'idée qu'on a une vraie ambition au service de l'homme et qu'à ce moment-là, on a aussi d'autres solutions à proposer qui sont peut-être plus difficiles, plus globales nécessairement, et qui nécessitent des choix qui ne sont pas forcément toujours dans l'air du temps, mais qu'il faut aussi savoir affronter, et que la facilité aujourd'hui, c'est plutôt la gestion des émotions que la gestion de vraies ambitions.
Vous proposez d'abord 4 clés des besoins alimentaires mondiaux pour 2050, et vous citez Benoît XVI.
De rencontrer le pape Benoît XVI lors de sa venue à la FAO en 2009. Et à cette occasion, il avait cité deux phrases de son encyclique Caritas in Veritate qui, je crois, sont aussi utiles dans la manière dont on peut aborder les choses. Je peux les lire. Les besoins que nous avons vis-à-vis de l'environnement sont liés au devoir que nous avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation aux autres. On ne peut pas exiger les uns et piétiner les autres. Je crois que c'est important de toujours replacer l'homme dans notre réflexion, au cœur de notre réflexion. Et ce que dit Benoît XVI, c'est que c'est certes, il y a des problèmes environnementaux, certes nous devons y faire face et nous devons trouver des solutions. Mais nous devons trouver ces solutions au service de l'homme, car il n'y aura pas de solution en matière de durabilité et d'environnement si c'est pas l'homme qui est au milieu. Et ça me paraît fondamental.
Et vous ajoutez aussi dans un chapitre « Moins d'idéologie et plus de pragmatisme pour nourrir le monde ».
C'est bon, sortons d'un certain nombre d'idéologies qui ne nous permettent pas d'avancer et puis adoptons une position un peu stoïcienne qui est de dire où est-ce que vraiment nous pouvons agir le plus utilement. Et agir le plus utilement, ça permet permet de concentrer les forces et ça permet de faire bouger là où vraiment on peut faire bouger et pas là où on n'a pas les manettes. Sur les questions des gaspillages, ça me semble être un point essentiel. Les consommateurs dans les pays développés gaspillent aujourd'hui à peu près l'équivalent de la consommation alimentaire de l'Afrique subsaharienne.
Comment vous aimeriez que nous, lecteurs, nous réagissions face à la lecture de votre livre, Hervé Lejeune ?
Je crois qu'il y a... Il y a deux choses. La première, c'est contrairement à beaucoup de discours, se dire que nous pourrons nourrir le monde en 2050, c'est faisable, c'est possible. Et puis, à partir de là, se dire, bon, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau, dans mes réseaux, dans mon action publique, pour réussir ce pari qui est atteignable, qui demande aussi des engagements humains. C'est, je crois, le sens de ce livre.
Hervé Lejeune, ancien sous-directeur général à la FAO, l'invité de sœur Catherine Aubin. Ce dimanche, 24e dimanche de temps ordinaire, le père Pascal Montavite nous propose son commentaire de l'Évangile. Évangile selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 32. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux.
En ce dimanche, nous méditons sur trois paraboles qui expriment la miséricorde de Dieu. La première parle d'une brebis perdue, la seconde d'une drachme perdue et la troisième du fils perdu. Voyons comment chacun de ces passages apporte un éclairage spécifique au pardon que le Seigneur accorde aux hommes. Dans la première parabole, Jésus parle d'un berger qui laisse ses 99 brebis seules dans le désert afin de retrouver l'unique qui est perdu. Lorsqu'il la retrouve, il la prend sur ses épaules, rentre chez lui et appelle ses amis pour se réjouir. En premier lieu, force est de reconnaître que ce berger est imprudent. Laisser 99 brebis dans le désert, c'est les exposer à tous les dangers. Elles peuvent se perdre ou être attaquées. Pourtant, le berger leur fait confiance. De même, Jésus nous fait confiance lorsque nous traversons certains déserts de notre vie. Dieu met sa confiance en nous. Notons aussi que Jésus porte sur ses épaules la brebis égarée et retrouvée. Celle-ci n'est certainement plus capable de marcher, elle est épuisée ou s'est blessée. Lorsque nous nous éloignons de Jésus, c'est lui qui vient nous chercher et nous ramène. C'est lui qui nous porte. La seconde parabole propose une histoire semblable à celle de la première. Ce n'est plus cependant une brebis, mais une drachme qui est perdue. C'est en éclairant et en balayant la maison que la femme retrouve sa drachme. Par une lecture symbolique, il est possible de dire que la lumière et la purification accompagnent le chemin de celui qui retourne vers le Christ. Là encore, la joie caractérise la parabole. Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Enfin, la dernière parabole est celle du fils prodigue. Lorsque le cadet veut partir, le père ne le retient pas. Dieu laisse les hommes libres. Cette liberté nous conduit parfois à rejeter, à abandonner celui qui est pourtant notre créateur. Plus surprenant encore, le père laisse son fils s'en aller en emportant avec lui sa part d'héritage. C'est déjà un effet de l'amour miséricordieux de Dieu que de laisser les hommes user des biens de ce monde au point de croire qu'ils en sont les uniques propriétaires. Dieu ne nous retient pas en gardant pour lui les bienfaits de sa création. Au contraire, la création nous est confiée. Le passage clé de cette parabole se situe au moment où le fils prodigue commence à réfléchir à sa vie. L'Évangile dit « rentrant alors en lui-même ». Le fils cadet entre en lui-même. Il ne regarde plus ce qui est extérieur, les plaisirs que le monde peut lui offrir, mais il se regarde lui et là, il comprend la misère de sa situation. Il se rappelle de son père et décide de retourner vers lui. Le fils prodigue se reconnaît pécheur. Toutefois, s'il retourne vers son père, c'est parce qu'il a faim. Cette attitude contraste avec celle du père qui, l'apercevant, est saisi de pitié, court vers lui, se jeter à son cou et le couvre de baisers. Et cela avant même que le fils ait pu dire quoi que ce soit. Tant d'affection manifestée à un fils sur le retour ne manque pas d'étonner. Et pourtant, un tel déséquilibre manifeste bien la miséricorde du Seigneur pour nous. Il suffit que nous rentrions en nous-mêmes et que nous décidions de retourner vers le Seigneur pour que le Christ nous accueille à bras ouverts. Cela dit, le fils prodigue a encore un long chemin à faire. il lui faudra apprendre qu'il est plus important de retourner chez son père par amour que parce que la faim le tenaille. En ce dimanche, rentrons nous aussi en nous-mêmes afin d'y retrouver le Seigneur et recourons sans crainte à sa miséricorde.
Vous pouvez réécouter le commentaire de l'évangile du Père Pascal Montavide sur notre page internet www.radiovaticana.va et sur notre page Facebook Radio Vatican en français. Vous y trouverez toute l'actualité en son, en texte, en images. Actualité du Saint-Siège et de l'Église dans le monde. Sur ces informations s'achève maintenant ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain à la même heure pour une nouvelle émission.